Retour de l'avocat Radio Côte-Varoise, Maître Enzo Baudard-Contès est avec nous. Maître, bonjour.
Bonjour François, comment vas-tu?
Bah bien et toi?
Écoute, très bien, je te remercie, merci de m'accueillir, bonjour aux auditeurs.
Alors Enzo, aujourd'hui on va parler d'immunité en justice.
Oui, oui.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, toi tu m'as posé, si tu veux, comme tu le sais, c'est toi qui me propose le contenu. C'est une question assez vague, des immunités en justice, il en existe de toutes sortes, des immunités diplomatiques, des immunités politiques.
Il en existe même à Koh-Lanta.
Exactement, mais malheureusement Denis Brognard n'est pas là pour en parler, ce n'est que moi. Donc existe-t-il des immunités en matière de justice? La réponse est simple. Oui, il existe des immunités en droit, mais attention, ce ne sont pas des passe-droits, ce sont des règles très encadrées. Une immunité, c'est quoi? C'est une règle qui empêche un juge de juger une personne dans certaines situations précises. Très important, ça n'efface pas la faute, ça bloque seulement la procédure.
C'est suspensif.
Ça peut l'être.
D'accord.
Ça peut l'être dans certains cas. Par exemple, les immunités des États et des dirigeants. Mmh. En droit international, il y a un principe qui domine. Pareil, il existe l'exception de l'exception, on l'a déjà vu. Un État, en principe, ne peut pas juger un autre État.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle l'immunité de juridiction. Par exemple, un État étranger ne peut pas être jugé facilement devant un tribunal français. Ses agents peuvent aussi être protégés pour leurs actes officiels. Mmh. La Cour européenne des droits de l'homme, elle valide ce principe, elle part du principe que l'immunité est une limitation normale du droit d'accès au juge, que le juge français ne puisse pas ingérer dans des affaires d'un autre pays.
Oui, déjà, à la base, les lois ne sont pas les mêmes.
Déjà, les lois ne sont pas les mêmes, mais alors je vais pareil faire quelque part une exception de l'exception et une digression dans ce que j'avais prévu. Je vais te donner un exemple très particulier. Alors, je ne me rappelle plus du nom exact de cette doctrine, mais il y a une doctrine américaine qui part du principe que, à partir du moment où vous utilisez le dollar, quand bien même vous ne vous trouvez pas sur le territoire américain, si vous faites une infraction en dollars, vous êtes au Japon, en Chine ou...
Vous tombez sur le coup de la justice américaine.
Vous tombez sur le coup de la justice américaine et vous pouvez... Il y a des pressions... alors ça peut faire pareil l'objet d'une chronique, mais j'avais vu effectivement à la fac, notamment en droit de la concurrence, des décisions de justice américaine où vous avez comme ça des employés d'entreprises... extérieurs, en Corée ou en Afrique, qui sont littéralement, je ne sais pas si le terme est tout à fait propice, mais extradés et jugés aux États-Unis pour des faits parce que le dollar a été utilisé, l'infraction qui a été réalisée avec du dollar.
D'accord.
Donc tu vois comme quelque part, c'est aussi, au-delà du droit, une histoire de puissance. Mmh. Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir imposer? Parce que quelle est la doctrine aux États-Unis? La doctrine, c'est de dire, ok, tu commets une infraction en dollars, bah, je t'interdis mon marché.
Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'affaire Maduro? Trafic de drogue ou...
Bah, en fait, si tu veux, alors, pour Nicolas Maduro, c'est vraiment très
particulier.
Mais c'est pour ça que ce que je dis est un principe, ouais. Et que dans le cas concret, moi, ce que je dis s'applique à la France. Mm-hmm. Mais vraiment, les États-Unis, c'est le cas extrême, très particulier, où quelque part, il n'y a pas vraiment d'histoire de droit. Ce qui intéresse l'Amérique, c'est un rapport de force.
D'accord.
Alors, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? C'est un autre sujet qui est éminemment politique et je ne suis pas là pour en juger. En revanche, effectivement, il y a une doctrine américaine qui est très différente de la doctrine française ou occidentale. En tout cas, la doctrine occidentale, c'est le principe de on ne juge pas un dirigeant d'un autre État ou on n'ingère pas dans un autre État. Mais effectivement, il y a cette notion de dire, bah, si tu fais une infraction avec ma monnaie, eh bien, bah, je pars du principe que tu as deux possibilités. Soit je t'interdis en tant qu'entreprise de commercer sur mon territoire, et comme je suis le territoire le plus riche du monde, soit à ce moment-là, bah, tu me donnes tes deux ou trois employés qui sont responsables de cette infraction-là, et j'oublie tout.
D'accord.
Voilà. Donc,
petite parenthèse américaine.
Petite parenthèse trumpienne. Alors, en principe, encore plus fort, un chef d'État en exercice bénéficie d'une immunité pénale totale, même pour des faits graves, tant qu'il est en fonction. Ça, c'est le principe.
Voilà. Ça, on l'a vu avec l'affaire Chirac. Hein.
Oui. Alors, Est-ce que
une immunité oui,
de la même manière que Nicolas Sarkozy n'a pas été poursuivi. En tout cas, il y a une suspension.
C'est arrivé après, ouais.
Exactement. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas poursuivre. Alors, il y a des cas d'exception, bien sûr, qui pareil peuvent faire l'objet d'une chronique. Mais le principe, c'est qu'on ne peut pas être poursuivi dans le cadre de son mandat lorsqu'on est président de la République. Et si on a une affaire judiciaire, cette affaire est la procédure est suspendue. Mmh. Et elle reprend à partir du moment où le mandat se termine. Il y a aussi une autre immunité dont on parle beaucoup. Mmh. On n'en a pas parlé notamment avec l'affaire Le Pen, c'est l'immunité parlementaire. Mmh. Les élus aussi ont des protections. Deux grandes formes, une irresponsabilité, c'est-à-dire un parlementaire ne peut pas être poursuivi pour ce qu'il dit dans l'exercice de ses fonctions. Et ça, souvent, c'est mal compris, l'immunité parlementaire. On pense que c'est une immunité totale. En réalité, elle couvre, en tout cas, elle tend à protéger un principe fondamental qui est la liberté d'expression des élus et notamment des parlementaires, parce que on a eu dans le passé, évidemment, puisque c'est toujours sur cette base-là qu'on crée du droit, des cas où des parlementaires étaient poursuivis pour avoir contredit, pour avoir été des opposants de régime. On a des exemples très frappants pendant la Révolution française.
Oui.
On a d'autres exemples plus frappants, notamment pendant le Second Empire, où des opposants ou des parlementaires directement étaient effectivement chassés ou tués d'une manière ou d'une autre.
Voilà.
Voilà. Y a également ce qu'on appelle l'inviolabilité. On ne peut pas engager certaines poursuites sans autorisation. Par exemple, c'est le président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale qui peut lever ou pas cette immunité parlementaire dans certains cas. L'objectif est clair, comme je le disais, c'est protéger la liberté de parole politique et éviter les pressions judiciaires, je dirais même les pressions politiques elles-mêmes. Mmh. C'est protéger l'opposition ou la majorité dans son temps de parole. Il y a aussi l'immunité d'exécution, même quand un État est condamné. Vous ne pouvez pas saisir ses biens librement. Par exemple, les ambassades, les comptes liés à une mission diplomatique sont protégés, sauf accord de l'État concerné.
D'accord.
C'est prévu notamment dans le code des procédures civiles d'exécution. Il y a aussi ce qu'on appelle les immunités des organisations internationales. Les agents, par exemple, de l'Union européenne ou de certaines organisations internationales bénéficient aussi d'immunité pour les actes qui sont accomplis dans le cadre de leurs fonctions, dans l'intérêt de l'institution. Ce sont des immunités qui sont fonctionnelles, qui ne sont pas personnelles. Elles ont pour objectif, si tu veux, étant donné que dans une organisation internationale, il peut y avoir 20, 30, 40, 50 pays, que les droits ne s'accordent pas, il ne faudrait pas que, au prétexte qu'un agent qui représente une organisation viendrait à commettre une infraction aux yeux d'un des pays, se retrouve à être poursuivi dans le cadre de ses fonctions, alors qu'il occupait ses fonctions légalement au sens de la réglementation de l'organisation.
D'accord.
Je ne sais pas si ce que je viens de dire était clair, mais il me semble que c'était clair.
J'ai tout compris.
Voilà, formidable. J'espère que les auditeurs ont la même capacité de compréhension que toi, je n'en doute absolument pas. Il y a une limite qui est essentielle, c'est le contrôle du juge. Toutes ces immunités, elles ne sont pas absolues, c'est un peu ce que je tendais à dire depuis le départ. La Cour européenne des droits de l'homme, elle va toujours vérifier: est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est proportionné? Et existe-t-il une autre voie de recours? C'est toujours la même situation, c'est le in concreto. Si l'immunité bloque totalement l'accès à la justice sans alternative, elle peut être remise en cause.
D'accord.
Ça, c'est du cas par cas. Ce qu'il faut retenir, oui, il existe plusieurs immunités en justice, c'est vrai. Elles protègent les États, elles protègent les dirigeants, elles peuvent protéger les parlementaires ou certaines institutions, mais elles ne signifient pas impunité. On l'a vu dans le cadre de l'affaire Le Pen. Elles sont également strictement encadrées et toujours contrôlées au regard du droit à un procès équitable. Pour conclure, les immunités ne sont donc pas là pour protéger des individus. En réalité, elles sont plus là pour protéger des fonctions, ce qu'elles peuvent représenter. Les diplomates, la diplomatie, la démocratie, l'équilibre des pouvoirs. Et en droit moderne, il y a une idée qui s'impose, c'est qu'aucune immunité ne doit devenir un déni de justice.
Ouais.
C'est un principe fondamental. J'en ai donc terminé là. Merci François.
Maître, la semaine prochaine, nous parlerons des droits des animaux.
Oui, tout à fait. On en a parlé il y a quelques semaines. On y a fait allusion au cours d'une chronique. Le droit des animaux. Et puis, tu avais une sous-question dont on parlera la semaine prochaine, notamment sur les chiens d'assistance, avec les sourds, les aveugles, etc. Ouais. Comment ça se passe? Donc, on en parlera. C'est quoi, en gros, le droit des animaux en France?
Ouais, très bien. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, François. Merci.